Chapitre 16. Saga gare sa moto à quelques rues de son appartement, sort son portable, ouvre machinalement l'application de surveillance et regarde le flux en temps réel des quatre caméras, le couloir avec la porte d'entrée, la cuisine, le salon et la chambre. Tout est calme. Elle consulte l'historique. Seuls les mouvements sont sauvegardés sur le disque dur. Le dernier enregistrement est celui où on la voit se rendre dans l'entrée, enfiler ses chaussures et rester plusieurs minutes immobile, le front et les mains appuyés contre la porte, avant de quitter l'appartement. Elle observe son image pendant un long moment. Saga se sent toujours anxieuse lorsqu'elle va voir Stéphane, parce qu'elle sait qu'elle se punit. Mais jusqu'à présent, elle n'avait pas conscience qu'elle hésitait si longtemps. Elle pensait seulement s'être recueillie une seconde avant de partir. Arrivée chez elle, elle balance tous ses vêtements dans le panier à linge sale et prend une douche rapide. La pensée qui lui a traversé l'esprit sur le pont ne la lâche pas. Le prédateur a été blessé par Yurek. Elle se sèche et enfile son peignoir rose. Il est 19h30 quand elle s'assied sur son lit avec son ordinateur sur les genoux et commence ses recherches sur Yurek Walter. Bien que tous les documents le concernant soient censés être sous le sceau du secret, le moteur de recherche génère plus de 3000 occurrences sur son nom. Il s'agit principalement de blogs et de podcasts traitant des crimes et des affaires classées. Certaines formulations sont répétées presque mot pour mot, notamment que Yurek Walter est un mythe moderne et une ombre qui plane sur les statistiques des personnes disparues. Sur un forum, quelqu'un écrit que Yurek Walter était un pilleur de tombes et un collectionneur de trophées et invoque une source fiable dans la police d'Oslo. Un autre parle de l'existence de fosses communes à l'extérieur de Madrid. Saga se dit qu'elle devrait entrer des critères de recherche plus précis, utiliser des enquêtes ou des lieux exacts. Au lieu de ça, elle écrit le prénom de sa sœur, Pellerina, à côté de celui de Yurek, et lance la recherche. Cette fois, les résultats se réduisent à 13. Elle les fait défiler sur l'écran et frémit en voyant qu'il existe un site web intitulé The Yurek Walter Files. Elle prend une profonde inspiration, puis clique sur le lien. Il suffit d'un rapide coup d'œil pour se rendre compte que l'auteur du contenu a eu accès à du matériel confidentiel provenant à la fois de la NOA et de la CEPO. Lorsqu'elle fait défiler la page, tombe sur la dernière photo prise de Yurek avant qu'il ne s'échappe de l'unité sécurisée de psychiatrie médico-légale de l'hôpital Löwenströmska. Elle doit fermer son ordinateur un instant et se concentrer sur sa respiration. Elle parcourt ensuite les images à faible résolution du passeport polonais que Yurek a utilisé pour entrer en Suède, le formulaire d'enregistrement de la police après son arrestation à Liljanskogen, la documentation médico-légale et une biographie en cours de rédaction. Saga constate que presque tout ce qui se trouve sur ce site est authentique et directement lié à Yurek Walter. Seules quelques images ont pu être fabriquées, comme une chaise ensanglantée qui aurait appartenu à l'asile de Hassel Gordon. Le site semble n'avoir aucun autre but que de partager le maximum d'informations et documents sur Yurek Walter. Un site pour les fans, en quelque sorte, songe-t-elle. L'administrateur du domaine se fait appeler Karl Speller. Elle lance une recherche et constate que cet homme existe réellement, qu'il est né en Afrique du Sud et vit à Elsie. Il occupait un poste de journaliste au quotidien du soir Expressen, mais il a été licencié et semble les avoir poursuivis en justice. Elle se souvient vaguement de cette histoire. La CEPO avait saisi tous les exemplaires du journal dès qu'elle avait appris qu'Expressen s'apprêtait à publier un reportage sur la traque de Yurek Walter. Karl Speller devait donc en être l'auteur. Saga retourne sur le site, clique sur la biographie qu'elle avait commencé à lire et s'arrête sur un court entretien téléphonique de ce Speller avec Suzanne Yelm. Il y a de nombreuses années, Suzanne Yelm travaillait comme médecin dans le bunker de sécurité où Yurek Walter était détenu. Elle l'a laissé s'introduire dans sa tête et purge aujourd'hui une longue peine à la prison de Hinsberg. Dans l'entretien, Suzanne répond de manière très évasive aux questions de Karl Speller, mais il est évident que sa vie a été ruinée par sa rencontre avec Jurek Walter. Elle est divorcée, a perdu la garde de ses deux filles et ne reçoit aucune visite en prison. L'interview retranscrite se termine par une mention disant qu'elle a brusquement interrompu l'entretien lorsque Karl Speller l'a interrogée sur Juna Lina. Saga clique sur le lien info@jurekwalterfiles.com, rédige un court mail disant qu'elle aimerait parler à Karl Speller, signe de son nom, inscrit son numéro de téléphone en dessous, puis l'envoie. Elle n'a même pas le temps de retourner sur le site que son portable sonne. Elle décroche et répond. Ici Saga. C'est Karl Speller, dit un homme en reprenant rapidement son souffle. Je parle bien à Saga Bauer. Oui, je viens de vous envoyer un mail. Désolé, je suis un peu impressionné, explique-t-il. Saga se dit que Karl Speller a probablement dû décider de publier la vérité sur Jurek Walter parce que son article avait été supprimé, qu'il avait été licencié. Elle entend sa lourde respiration à l'autre bout du fil. Elle réalise qu'il a dû passer énormément de temps à trouver et à rassembler toutes ces informations. Et dans cette histoire, elle et Juna sont les personnages principaux aux côtés de Jurek. Ça doit bien sûr être étrange pour lui de parler à une personne qu'il a suivie, cartographiée et étudiée de loin pendant tant d'années. « Avez-vous le temps de parler ?» lui demande-t-elle. Il lâche un petit rire crispé. « Si j'ai le temps de parler à un ange déchu, oui, je peux vous accorder quelques minutes de ma vie riche et pleine de sens. » Vous semblez en savoir plus sur Jurek Walter que quiconque en dehors de la police. Sans aucun doute, répond-il, la bouche trop proche du micro du téléphone. Et à certains moments, même plus que la police. Peut-être bien. Je vous serais extrêmement reconnaissante si vous pouviez m'aider à lister les gens qui ont rencontré Jurek et qui sont encore en vie. Absolument. N'excluez personne. Quiconque a croisé son chemin m'intéresse. « Ok, mais vous avez mon adresse mail, » dit-elle. « Si je dois partager mes recherches, j'aimerais au moins vous rencontrer, m'asseoir avec vous et vous montrer tout ce que j'ai pu rassembler autour d'un café. C'est juste que je suis très prise en ce moment. » « Je comprends, » répond-il déçu. « Je peux attendre que vous ayez un peu plus de temps. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » s'empresse-t-elle de rectifier. « C'est très agité en ce moment et je n'ai pas le temps d'attendre. J'aimerais vous rencontrer dès ce soir, si ça vous convient. » Saga enfile rapidement un jean et un gros pull, enfourche sa moto et file vers Hornstuhl. Au milieu du pont Liljeholm, elle pense à la façon dont Karl Speller a failli se rétracter. À la toute dernière seconde, elle a réalisé qu'il voulait échanger des informations contre des morceaux d'elle. Pouvoir la voir pour de vrai et lui poser des questions restées sans réponse. Des nuages pâles dérivent lentement dans le ciel sombre au-dessus de la surface lisse de la baie. Elle emprunte le viaduc de l'autoroute à Brennkürka, passe devant la caserne des pompiers et continue en direction de Longsion. Elle longe de grandes maisons individuelles au jardin verdoyant. Leurs fenêtres éclairées scintillent derrière les branches des arbres. Les rues sont vides. Aucune voiture ne circule. Le monde semble plongé dans une obscurité fantomatique. Saga n'arrive pas à trouver d'explication raisonnable à ce qu'elle s'apprête à faire. Elle est sur le point de déroger à la règle, d'accomplir en secret une mission opérationnelle. Ça pourrait ruiner ses chances d'obtenir un poste à la NOA. Le vrombissement de sa moto se répercute dans les rues désertes. Saga ralentit, tourne à droite et s'arrête dans l'allée d'une grande villa d'architecte des années 1960. Avant de descendre, elle observe un moment les fenêtres de la cuisine où l'on devine une table à manger et un plan de travail en marbre blanc, puis celle du salon où trône un grand canapé et enfin une immense salle à manger vitrée donnant sur le jardin. La maison est éclairée, mais on ne voit personne à l'intérieur. Carl Speller lui a demandé de ne pas sonner à l'entrée principale, mais d'aller à la porte de la cuisine. Saga traverse la pelouse jusqu'au pignon de la villa. Des aboiements retentissent au loin. Les dalles sont couvertes de mousse. Des mégots flottent dans un vieux pot de confiture devant l'entrée. À côté de la porte, un morceau de ruban adhésif est fixé au-dessus d'une sonnette sur lequel est écrit « Speller ». Elle appuie sur le bouton. Des pas lourds résonnent à l'intérieur, puis la porte s'ouvre sur un petit homme trapu d'âge moyen, au visage rond et aux sourcils clairs. Ses cheveux blonds sont coupés courts, à l'exception d'une longue mèche peignée en arrière sur le haut de sa tête. « C'était rapide. Entrez !» sourit-il en dévoilant des canines pointues. Il porte des chaussettes blanches, un jean bleu et, sous sa veste froissée, un t-shirt dépêche mode. Dans l'étroite entrée, des vestes sont suspendues au crochet d'un porte-manteau. La porte qui donne sur la cuisine est fermée. Et, sur le côté, un escalier exigu mène au sous-sol. « Putain, je suis trop content !» dit-il en refermant la porte derrière elle avec des mains tremblantes. Carl Speller commence à descendre les marches, s'arrête et se retourne vers elle lorsqu'il remarque son hésitation. « Je loue le sous-sol à une famille. C'est ici que je vis. On ne se croise pour ainsi dire jamais, sauf si c'est absolument nécessaire. » « Ils sont là en ce moment ?» demande-t-elle. « Je pense pas. » Elle enjambe des baskets et une paire de bottes de cow-boy qui traînent sur le tapis de l'entrée et le suit en bas. « N'hésitez pas à utiliser la lampe de votre portable, » dit-il en se tournant vers elle. « J'ai des problèmes d'électricité dans mon petit musée. Le disjoncteur n'arrête pas de sauter. » Elle active la torche de son téléphone. Une goutte de sueur coule le long de la joue ronde de l'homme. Les marches craquent à chaque pas qu'ils font, et l'ombre de Carl se balance sur les murs devant eux. Les faisceaux éclairent des parties du plafond incliné et un sol en PVC délavé. Il sait qu'elle ne devrait pas être seule ici, qu'elle aurait dû envoyer l'adresse à Juna. Mais elle n'a pas voulu prendre le risque qu'il l'en empêche. Des petits frottements se font entendre derrière le mur. On dirait des lames de patins sur de la glace. Carl se tient à la rampe avec sa main droite et les maillons dorés de sa montre-bracelet raclent le bois. Un pansement sale entoure son pouce. D'une voix un peu aiguë, il aligne des phrases incohérentes à propos de ceux qui se sont distingués depuis son passage à l'école de journalisme et des différentes rédactions dans lesquelles il a travaillé. Il se tait lorsqu'il débouche dans une grande pièce sombre. Il fait quelques pas à l'intérieur, puis se tourne vers elle. « Saga Power, en visite dans mon musée, » dit-il, comme s'il n'arrivait pas à y croire. Elle balaie la grande pièce avec sa lampe. À travers deux petites fenêtres à hauteur de plafond, elle devine des touffes d'herbe et un ballon de foot en plastique. Les murs sont recouverts de photos encadrées, toutes reliées à Yurek. Des rapports, des documents médico-légaux, des copies de compte-rendus concernant Juna et elle. Une grande carte a été peinte au plafond, dévoilant le système de tombe de Yurek depuis Liljanskogen jusqu'au dernier point non utilisé sur l'autoroute en direction de Moraberg. Au milieu d'un tapis en PVC jaune clair, trônent trois vitrines en verre scintillantes. Elles sont éclairées par une série de spots montés sur rails. « Venez !» dit Carl en la faisant entrer. Elle le suit, mais s'immobilise lorsque le faisceau de sa lampe tombe sur une vitrine où est exposée la pelle de la chapelle de Hogmarse. « Vous la reconnaissez ? Je l'ai achetée au domaine pour rien du tout !» Dans la vitrine suivante, ont exposé les pantoufles ensanglantées de Saga provenant de l'unité sécurisée de psychiatrie médico-légale. Et, dans la dernière, sont alignées trois petites bouteilles en verre brun foncé contenant l'anesthésiant sévoflurane. « La promenade est terminée !» dit-il.